Lady Mars, c'en était une. On va enchaîner maintenant sur le rendez-vous mensuel avec le numérique sur JetFM. La tête dans le flux, la tête dans le flux, c'est la chronique mensuelle de l'association Ping. Et c'est Julien Bélanger qui nous parle dans un premier temps de la brique Internet, puis de la venue à Nantes le 15 avril prochain de Richard Stallman, l'initiateur du mouvement du logiciel libre, un grand nom, un très grand nom de la culture du libre au sens numérique du terme. Voilà, donc, alors la brique Internet, c'est comment ça marche? Mais on va voir ça avec Julien.
C'est vraiment l'équivalent de ce qu'on peut mettre sur un robinet qui filtrerait l'eau. Donc là, c'est un peu la même chose. Ça filtre en fait le flux Internet, sauf que ça filtre dans les deux sens, l'envoi et la sortie. Et donc c'est exactement ça son usage.
Donc, petit boîtier, hein, la taille d'un paquet de cigarettes. Voilà, son fonctionnement, on branche ça sur l'ordinateur, tout simplement?
Alors, du coup, tout à fait, on le branche plutôt sur sur sa box. Tu as un fournisseur d'accès chez toi, et donc du coup, tu as forcément une box,
oui.
Quelle que soit la marque.
Oui.
Et du coup, tu la mets entre ton ordinateur et ta box. Ça, tu la branches avec un câble sur ta box.
Un câble Ethernet.
Ethernet, exactement.
C'est ça, hein.
Un câble, voilà. Et ça émet un réseau Wi-Fi, qui est un réseau Wi-Fi sécurisé. Et donc, avec ton ordinateur, tu peux te connecter sur le réseau Wi-Fi avec différents paramètres. Donc, ça a deux avantages que je vais bien décrire selon la documentation qui est fournie sur l'excellent site labriqueinternet.net. Les deux usages, les deux fonctions, je dirais, les deux du produit d'appel, c'est de nettoyer son accès Internet et de se auto-héberger. Ça te permet surtout de laisser un peu moins de traces via tes navigations, via l'envoi de tes mails lorsque tu pratiques en fait Internet depuis chez toi ou ailleurs. Donc c'est différents filtres qui sont installés dessus et qui permettent notamment de ne pas trop savoir de quel endroit tu es en train de naviguer sur Internet et qui ne laissent pas de traces à terme aussi.
Il suffit donc de brancher ça quoi, sur le modem de ma box sur,
Voilà, le modem de la box à droite. Et puis là, tu as un petit réseau qui s'ouvre et puis tu te connectes dessus. Donc quand on l'achète par kit, on l'a en général juste démonté, il faut juste la visser un petit peu. Tu as un petit boîtier en plastique.
D'accord, il faut l'assembler.
Voilà, techniquement, tu as une petite carte Olimex à l'intérieur si ça t'intéresse. Voilà, et après, tu as deux, trois petits scripts d'installation très très simples à réaliser. Ou alors, tu t'approches d'une structure associative. Il y a une carte sur le site proche de chez toi qui t'explique comment la configurer. Et après, c'est parti.
J'imagine que Ping permet à celles et ceux qui seraient un peu perdus de savoir utiliser ça ou pas, ou je dis de bêtises.
Lors des Open Ateliers le jeudi, moi j'en ai une, il y a d'autres adhérents qui en ont, mais il y a aussi une structure surtout très impliquée là-dessus qui s'appelle FAI Maison, Fait Maison.
D'accord, FAI, jeu de mots, vous êtes fournisseur j'allais arriver, d'accès Internet.
Exactement, qui est référencé sur la carte et qui non seulement aide, mais t'aide à acheter aussi le boîtier et puis à le configurer. Après, c'est tout le côté logiciel qui est dessus et en logiciel libre. Donc, tu peux aussi l'installer sur un autre petit ordinateur ou alors une carte Raspberry Pi, comme on dit. D'autres petits éléments électroniques, pas forcément celle-ci exactement. Quoi. Donc tu veux que je te décris un petit peu les fonctionnalités?
Par exemple?
Alors, je vais parler d'abord d'auto-hébergement, parce que c'est une spécificité quand même de la brique Internet par rapport à d'autres petits objets comme ça. Il y a un logiciel qui est installé qui s'appelle YouKnowHost dessus. YouKnowHost, toi maintenant héberge, enfin, tu es hôte, et qui permet notamment d'héberger tous tes mails par exemple, ton agenda partagé, un blog. Qu'est-ce que tu as d'autre? Des flux RSS, un ensemble de petites applications qui, au lieu d'être sur le nuage, on ne sait pas trop où, sont stockées sur le mini disque dur qui est dessus et te permettent à tout moment, par exemple, de débrancher et puis d'avoir tes données avec toi. Donc, c'est vraiment l'illustration des données personnelles, physiques en fait, et à domicile. Donc il y a toute une liste d'explications qui te disent aussi, voilà, si tu pars en vacances, tu peux emmener tes données personnelles avec toi et les brancher sur le réseau Wi-Fi de ton camping. Ou si tu changes de fournisseur d'accès aussi, par exemple, ça c'est important, tu as juste à redébrancher, rebrancher, ça marche aussitôt.
D'accord. Donc voilà, mes données sont vraiment mes données et ne sont pas l'objet de convoitises, de marchands divers et variés, on va dire ça, ou de scrutateurs bienveillants ou pas d'ailleurs.
Voilà, tu mets un peu, tu arrêtes un petit peu cet aspect de flou d'envoi de données vers un endroit, un nuage ou un stockage qui est peut-être utilisé à d'autres fins ou des choses comme ça. Donc ça, c'est assez, assez intéressant. Qu'est-ce que ça permet d'autre? Je regarde un petit peu ma petite fiche. Alors, ils mettent ça, je veux dire. Si vous déménagez ou vous souhaitez couper l'électricité pour partir en vacances, vous pouvez brancher votre brique sur n'importe quel accès Internet. Donc c'est, voilà, c'est vraiment le plug and plug et le débrancher. Donc c'est, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autrement? Alors, ça permet aussi pour les gens qui sont un peu plus bricoleurs ou spécialistes en informatique de faire des VPN. Donc, des VPN, c'est des réseaux privés virtuels. Et ça permet de encore plus sécuriser entre deux ordinateurs qui sont à distance le partage et les communications. Un peu comme sur un réseau local dans un bâtiment ou entre collègues ou dans une maison. Donc, ça permet de créer ça aussi assez facilement, en fait. Ça sécurise vraiment les données. Donc, c'est assez... en termes de cryptage et tout ça, c'est assez haut niveau. Mais l'idée, c'est de le faire de manière un peu préécrite et assez didactique, et puis de faire un beau package. Alors, il y a aussi sur le site une autre idée derrière ça, c'était d'acheter une petite batterie à 12 €, qui permet aussi du coup d'avoir un petit réseau Wi-Fi portable que tu peux mettre dehors dans la nature, et puis du coup de partager aux gens qui sont localement autour de ta petite brique les données qui sont dessus. Alors,
Une boucle, quoi. Hein,
voilà. Voilà, dans une boucle, ce qu'on appelle les pirate box, qui sont un peu, on va dire, un mélange entre le fait de pouvoir échanger des données comme on faisait avec les cassettes audio avant sur son réseau local, de jouer aussi avec l'aspect juridique, parce que du coup, quand on fait du pair à pair comme ça, d'échange de fichiers, c'est permis. D'être mobile aussi. Et puis, peut-être d'imaginer des versions d'Internet ou de mini-Internet locaux. Alors, je sais que ça peut nous paraître un peu désuet, mais il y a des zones ou des pays dans lesquels, notamment en guerre, par exemple, où il y a des problèmes aussi d'infrastructures qui sont mis à installer, en fait, comme ça, des spots de partage de données, de documents.
On imagine en Chine, par exemple, où l'Internet est très surveillé, qu'il peut y avoir ce développement d'initiatives.
Exactement, parce que du coup, ça a deux avantages. Le côté... micro et local, hein, et le côté aussi sécurisé. Donc on joue avec les deux critères, quoi. Donc on peut acheter aussi un petit panneau solaire qui vient alimenter la batterie pour qu'il soit aussi autosuffisant. C'est bien expliqué aussi sur le site. Qu'est-ce que je peux t'expliquer encore plus de...
J'ai une question. Tu disais qu'on peut mettre ces données locales, ces données personnelles, pardon, sur cette brique, dans ce petit boîtier. Il y a une capacité restreinte quand même de stockage des données.
Oui et non, parce que du coup, il y a un port USB, donc si tu mets un disque dur
externe, donc on peut relier
USB 32 Go, pour donner déjà, tu sais très bien qu'on dépasse largement de quoi faire.
D'accord.
Voilà. Ce que j'aime bien sur la petite page de YouNoHost, qui est du coup un autre projet aussi français, il me semble, il y a marqué, si à 50 ans tu t'es pas auto-hébergé, t'as loupé ta vie. Donc voilà,
on va être nombreux.
Voilà, c'est un peu l'équivalent de la Rolex, mais en version Internet... activiste. Non, c'est assez bien expliqué. Je pourrais peut-être ajouter une partie un peu technique sur IPv6 et IPv4. C'est que IP, tu sais ce que c'est, TCP/IP.
Oui, IP, c'est ton adresse Internet, ton identification d'ordi, c'est ça?
Tout à fait. Et la version 6, V6, elle est un peu plus fiable et elle garantit un peu plus les conditions de neutralité, justement, sur Internet. Et du coup, c'est garanti IPv6. Donc ça, c'est vraiment pour faire le... Version téléachat, voilà, je te dis, garantie IPv6, ça c'est important.
Une question très pragmatique, tu faisais référence à la Rolex, c'est le prix d'une Rolex ou c'est moins cher?
Ah non, je crois que ça doit être le prix de 10 fois moins le Rolex, 50 €, je pense que tu as l'intégralité du truc.
50 €.
Voilà, sachant qu'avec, tu peux aussi la faire une version vieil ordinateur, tu prends un vieil ordinateur sur lequel tu installes YouNoHost et puis les différents logiciels. Et du coup, tu as aussi ton petit réseau Wi-Fi.
T'arrives ton résultat. Donc c'est la brique Internet qui a été... Donc, imaginez dans le nord de la France,
exactement,
c'est ça?
Exactement, par les Lorrains, FDDN, à chaque fois je me trompe.
Oui.
Fringe Data Network ou Fringe, je ne sais plus s'il y a 2D ou un seul D. Enfin, voilà.
Finalement, c'est pour tourner le dos, c'est une sorte de contre-culture de l'Internet tel qu'il existe actuellement.
Alors, c'est un aspect très. Alors, après, c'est aussi parce que c'est dans la tendance des développements informatiques, hein, cette question de l'auto-hébergement et d'avoir des choses comme ça. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que sur le site de la fabrique Internet et de YouNoHost, il y a une quantité de conférences, en fait, des mêmes personnes qui expliquent en quoi, justement, les données personnelles sur Internet, c'est pas neutre, c'est pas anodin. Souvent, alors, ils ont pris trois phrases. Je ne sais plus exactement. La première, c'est je n'ai rien à cacher. Et du coup, ils décortiquent le fait que c'est pas parce qu'on n'a rien à cacher que. Il faut faire n'importe quoi avec ces données. Voilà. Oui. Le deuxième, c'est un axe plutôt sexe, alcool et vie privée, en fait, l'ensemble des documents qu'on publie sur Internet, eh bien, voilà.
Ouais.
Et puis le troisième, je ne sais plus le thème, et c'est, voilà, c'est un, non, ça, je dirais, l'aspect pratique vient un peu consolider un ensemble de ressources et d'explications techniques et juridiques qui sont assez intéressantes sur leur site.
Ça ne doit pas plaire aux grands opérateurs d'Internet, je sais pas, à des Google, des gens comme ça. Enfin, c'est peut-être Epsilon par rapport à ces monstres.
Oui, je pense que c'est. Comment dire, je ne sais même pas s'ils ils regardent trop ce genre de choses. Et je pense qu'ils y réfléchissent aussi déjà. Hein, donc,
Parce que imaginons que chacun, rêvons, chacun se procure tel boîtier, évidemment, tout le business sur Internet est largement compromis.
Oui et non, parce qu'en même temps, si on y réfléchit bien, nos téléphones portables, c'est déjà une version un peu de cette brique-là.
Ah, ouais.
Du coup, ils ont déjà ces grands comptes-là. Là. Maintenant, j'irai réfléchir un petit peu. Ils se sont déjà dit, tiens, on va aller vers plutôt les téléphones portables. Donc, c'est plutôt une alternative aussi, un mélange entre le téléphone portable et l'ordinateur. Mais en effet, si on était tous là-dessus, on a aussi une autonomie de débrancher et brancher ces données que je trouve intéressantes, ces données personnelles, où elles sont stockées. Ça laisse du coup aussi plus le choix finalement que de manière un peu transparente.
Et puis voilà, c'est très portatif, c'est 50 euros, c'est pas la mer à boire. Il y a un moyen de se procurer à moins cher, tu nous l'as dit.
Oui.
Effectivement, puis on peut en trouver à Nantes. Hein.
Tout à fait, voilà. Donc ça, c'est assez. Du coup, je vous invite à venir aux Open Ateliers si vous voulez qu'on en discute. On peut faire une petite démo, il n'y a pas de souci.
Chaque jeudi?
Tous les jeudis, de 14h à 21h. Et puis maintenant, aussi l'atelier partagé les mercredis au Braille.
Très bien, au Braille, quartier du Braille également. Donc une petite toux parce que, je n'ai pas dit, mais tu as le mérite d'être là parce que tu es un petit peu malade.
Voilà, donc ça, oui, ça filtre tout, mais pas encore toutes les maladies. Quoi.
Un petit boîtier, un grand bonhomme.
Alors du coup, c'était pour faire un petit parallèle parce que là, ce boîtier, c'était un peu pour illustrer la question des libertés, de la sécurité et de la surveillance, donc, qu'on avait aussi un peu abordé la dernière fois ensemble, Pascal. Et justement, pour parler un petit peu liberté... nous allons faire venir le 15 avril à Nantes Richard Stallman, qui est l'inventeur du mouvement des logiciels libres, anciennement chercheur au MIT.
Alors, il faut dire, c'est une grande star dans la culture du livre, même si je ne sais pas s'il y a des stars dans la culture du livre, mais en tout cas, c'est un nom incontournable.
Alors, c'est toujours compliqué parce que, du coup, dans la culture du libre, on promeut le collectif, le coopératif. Et les mouvements collectifs, mais il y a bien quelqu'un qui a impulsé les choses. Et de fait, en effet, si on retrace historiquement les choses, c'est un petit geste anodin qu'il a fait. Pas anodin, mais après, il s'est lancé dans des choses assez structurantes qui ont donné après GNU/Linux, etc., et les logiciels libres, le copyleft, etc. Donc forcément, comme on est dans une époque où on cherche aussi quand même des figures emblématiques, il en est une, quoi.
En tout cas, si c'est pas une star, c'est en tout cas un grand témoin. Quelqu'un, tu me le disais avant qu'on commence l'enregistrement de cette chronique, qui a impulsé Wikipédia.
Alors, du coup, dans sa bio, en effet, il a pas mal influencé beaucoup de choses, puisqu'il travaillait sur plein de projets super intéressants, et notamment un qui était la Free Universal Encyclopedia and Learning Resource, qui a donné lieu après à Wikipédia. Mais un ensemble de projets comme ça qui sont devenus assez structurants. Il bossait à l'origine sur Unix, qui était le seul type d'ordinateur qui existait, un petit peu comme on a Windows faisant très rapidement, qui étaient des ordinateurs plutôt industriels ou calculs mathématiques. Et puis, je ne vais pas retracer sa bio parce qu'en fait, il n'aime pas trop qu'on se trompe dans sa bio. Donc, je vous invite à aller plutôt la lire.
Alors,
lui qui a inventé la première par un acte assez fort. C'est lui qui a déterminé le fait qu'il fallait absolument qu'on invente les logiciels libres et la licence libre. Et pour la petite histoire, il était chercheur au MIT. Et il devait développer un driver d'imprimante. Il avait un problème d'accès aux données, aux sources. Il n'avait que l'exécutable du driver d'imprimante de ses collègues. Et il s'est rendu compte que malgré le fait qu'au MIT, c'était les plus grands hackers, etc., c'était quand même une problématique de ne pas avoir accès aux données. Et ça l'a un peu froissé. Et donc, il a fait une petite tour de passe-passe en créant, via le droit d'auteur américain, la première licence libre. Donc, quelque chose de formel. Et du coup, après, il a créé la Free Software Foundation. Qui s'occupe de ces libertés-là. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail de la licence libre, mais c'est à partir de ce moment-là, en 1983, qu'on a pu utiliser après des licences libres.
Donc Richard Stallman, on ne l'a pas dit, mais il est américain, il a 62 ans. Il sera à Nantes au mois d'avril, rappelle-nous la date.
Alors le vendredi 15 avril à 19h, à l'amphithéâtre de l'école d'architecture, à l'auditorium plutôt, à côté du chewing-gum bleu, là, enfin du bar. Là.
Oui.
Voilà, pour une conférence en français. Parce qu'il parle couramment français, anglais, espagnol, un peu indonésien aussi. Entièrement en français, de 2 heures avec 1 heure de questions. Enfin, voilà.
Et sa venue était à l'initiative de qui?
Eh bien, du coup, de Ping, en fait, on organise les 2 jours d'avant des rencontres entre médiateurs, animateurs socioculturels autour des questions numériques. Hein, et à chaque fois, on fait venir un intervenant ou deux un peu référents. Et puis là, on s'est dit, tiens,
Ouais, fallait oser quelque part, parce que c'est quand même une personnalité, même s'il y a plutôt du collectif dans cette culture du livre. Voilà, c'est quelqu'un historiquement qui est quand même
Oui, alors
un
après, ça,
jalon.
tout à fait. Alors après, c'est un peu comme un groupe de rock'n'roll. Hein. Ils jouent le lendemain, choisit le roi, la médiathèque choisit le roi. Donc voilà,
C'est le French Tour.
voilà, c'est le French Tour, on va dire, et on fait partie des dates. Il est à Athènes avant pendant 2 semaines, je crois, sur questions politiques et logiciels libres. Voilà, il nous a écrit un petit texte pour la conférence que je peux te lire, malgré ma voix.
Oui.
Perdante. Alors, notre liberté numérique est menacée par le fait d'utiliser des programmes non libres qui privent de leur liberté ceux qui les utilisent. Les systèmes numériques entraînent aussi surveillance, censure et autres injustices. Nous pouvons libérer nos ordinateurs en utilisant uniquement des logiciels libres, mais en dehors, l'action politique collective est nécessaire.
Donc ça résume bien son approche et ce qui a impulsé
Tout
finalement
à fait.
dans ce domaine du livre.
Et c'est ce qui se présentera, justement.
Donc, le 15 avril, à l'auditorium de l'école d'architecture, faut-il réserver? Il y aura du monde sans doute.
Alors, une des clauses justement de sa venue, c'est qu'on ne fait pas d'inscription en ligne. Et
Ok.
donc, du coup, en fonction des places disponibles, voilà.
Ben, venez coucher la veille et devant la
Voilà,
porte.
comme les folles journées.
C'est un peu ça, ouais,
Voilà.
voilà. Voilà. Donc, Richard Stallman. Et puis, il a un look, hein. On peut pas le montrer à la radio, mais il fait un peu gourou. Il a des grands cheveux. Il est.
Ouais, il
Il
a
a
un
un
peu
look.
plus de cheveux que moi, c'est vrai, mais autrement, c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Voilà.
Très bien. Quoi dire de plus?
Rien de plus, donc je redis la brique internet pour trouver des informations sur internet. Richard Stallman, vous trouvez sur le site de pingbass.net les informations.